Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Nous avons bien chanté ce matin et nous avons été enrichis par les psaumes, par les cantiques, par les prières aussi. Nous nous sommes approchés de Dieu, mais Dieu veut aussi s'approcher de nous. Et ce matin, j'ai intitulé notre temps de méditation « En sécurité dans la main de Dieu ». Vous savez tous que régler le problème d'insécurité constitue un chantier majeur de nos démocraties. On penserait que l'insécurité se trouve dans les grandes villes, les grandes agglomérations, mais même à la campagne aujourd'hui, on n'est pas en sécurité. Et on entend à la télé beaucoup d'affaires, de meurtres, de disparitions, des choses qui ne sont pas encore résolues. L'insécurité peut prendre plusieurs formes. Alors, il y a cette insécurité qui touche les personnes et les biens. Il y a tout d'abord l'insécurité physique. On entend parler, je vous l'ai dit, d'agressions de toutes sortes, de guerres civiles, de meurtres gratuits. Même le dérèglement climatique est une source d'insécurité. Les inondations répétées, les tsunamis, les tremblements de terre, comme au Maroc maintenant, les incendies qui ont, pendant tout l'été, les cyclones aussi. On a peur pour sa vie et pour ses biens. À côté de cette insécurité physique, il y a une insécurité morale. C'est quelque chose qui vous ronge intérieurement. C'est quelque chose qui vous tourmente. On connaît ça dans le monde du travail. Avec la crise économique qu'il y a, on est inquiet. La crise économique avec ses multiples aspects, c'est une source d'insécurité. On se demande où on va comme ça, comment ça va finir, de quoi sera fait demain. Il y a aussi les nouvelles lois qui sont une source d'insécurité. Le monde du travail avec ses sources, avec ses nouvelles règles, la délocalisation, la réduction des effectifs, il faut faire autant avec des moyens réduits, il faut la rentabilité à tout prix, la pression dans le monde du travail qui est ouverte ou cachée, tout cela est usant et nous amène à voir un monde plutôt sombre. Il y a aussi nos problèmes personnels, la santé, le travail, les relations familiales, tout cela est une source d'insécurité. Le croyant n'est pas à l'abri de cela. Il est logé à la même enseigne que ses contemporains. Il n'est pas insensible à tout ce qui se passe autour de lui, à tout ce qu'il entend et tout ce qui est une cause d'insécurité. Lui aussi a besoin de protection, de sécurité, de calme, d'assurance. La différence essentielle avec le commun des mortels, c'est que le croyant découvre dans les Écritures, comme nous l'avons lu ce matin, qui n'a pas à construire ses propres défenses. Le Seigneur lui-même est notre défense. Le Seigneur est notre forteresse. Et nous pouvons aller à lui à tout moment. Dieu nous dit, la parole est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots des mers mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, c'est le psaume 46, versets 2 à 4. Nous ne sommes donc pas constamment obligés de jeter des regards inquiets autour de nous, à droite, à gauche, en haut, en bas, et de craindre continuellement une attaque surprise du mal. Ésaïe 41, verset 10 nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Nous ne sommes pas obligés en tant que croyants de marcher dans une angoisse spirituelle parce que le Seigneur lui-même nous entoure par derrière et par devant et il met sa main sur nous, comme nous l'apprenons dans le psaume 139. Le Seigneur aussi prie constamment pour ses enfants. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, nous dit Romains chapitre 8, verset 34. Et dans l'évangile de Jean, le Seigneur a adressé au Père une prière qui devrait pleinement nous tranquilliser. Et Jean 17, 11 dit « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. » Et il ajoute plus loin, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » N'est-ce pas là une belle prière que le Seigneur a adressée, une prière propre à nous rassurer? Pourtant, frères et sœurs, chers amis, la foi forte et solide que nous désirons avoir est souvent ballottée, malmenée par les insécurités récurrentes et surprenantes, parce qu'on voit que le mal prend plusieurs formes aujourd'hui. Au lieu d'avoir une foi ferme, nous manquons d'assurance. Le Seigneur le sait et il nous a laissé sa parole. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toute bonne œuvre. Certains passages des Écritures utilisent des images fortes pour nous aider à placer notre confiance en Dieu et en Dieu seul, et ne pas avoir peur des circonstances difficiles de la vie. Ils abordent les difficultés, les insécurités qui nous assaillent pour les remettre à leur juste place. C'est le cas du psaume 125 que je vous invite à prendre avec moi. Donc ouvrons nos Bibles au psaume 125 pour voir comment le Seigneur nous montre que nous sommes en sécurité dans ses mains. Psaume 125, Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Être entouré de montagnes, une ville entourée de montagnes, est un atout précieux à l'époque biblique. C'était vraiment un atout précieux pour être protégé des attaques, pour être protégé de tous ceux qui étaient une cause d'insécurité. Ceux dont parle le psaume 125 sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle point. Ils sont comme une montagne solidement ancrée dans le sol. Leur foi est ferme. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que c'est toujours notre cas? Bien souvent, on doit confesser que notre foi chancelle. Nous ne sommes pas comme ceux qui sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Notre foi chancelle. Nous sommes plutôt vacillants, en proie au doute à certains moments. Et c'est la première cause d'insécurité, d'incertitude que nous examinons dans cette partie, le doute, les moments de dépression, les moments où nos sentiments nous jouent de mauvais tours. Au lieu d'être fermes dans la foi, nous chancelons. Un jour, nous avons confiance en Dieu, le lendemain, nous sommes assaillis par le doute. Notre foi subit des hauts et des bas. On reconnaît ce genre de marche avec le Seigneur chez le peuple d'Israël. Un jour, ils sont fervents, le lendemain, ils sont découragés. Quand on lit l'Ancien Testament et qu'on voit comment Dieu a délivré Israël d'Égypte, on lit qu'ils traversent victorieusement la mer Rouge, ils chantent les louanges du Seigneur après la traversée. Mais plus tard, dans le désert, ils murmurent. Un jour, ils sont vainqueurs des Cananéens, mais plus tard, ils sont dans l'idolâtrie et la débauche avec les Cananéens. Les disciples eux-mêmes ont une foi chancelante. Ils étaient prêts à mourir pour le Seigneur. Tous ont dit, oui, on va te suivre jusqu'à la mort. Mais ils n'ont pas hésité à le renier, à le lâcher quand les temps étaient difficiles. Quel est le remède contre le doute, contre les moments de dépression? Quel est le remède contre ces hauts et ces bas que nous propose le psaume 125? La vérité qui nous fait triompher d'une foi en dents de scie, d'une foi chancelante, nous est donnée dans le verset 2. Nous lisons dans le verset 2 du psaume 125, « Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. » L'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. La vérité à ne pas oublier, la vérité forte qui nous tient dans les moments difficile, et que nous sommes et nous restons le peuple de Dieu. Dieu est avec nous dans toutes les circonstances. Il est avec nous quand il nous châtie, il est avec nous quand il nous pardonne, il est avec nous quand il nous bénit. Il ne nous lâche pas. Il est le Dieu qui nous fait grâce en tout temps. Ainsi, nous dit le psaume au verset 2, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Lorsque notre foi faiblit, lorsque nos émotions nous malmènent, Dieu ne nous repousse pas parce que nous sommes faibles. Au contraire, il est avec nous et nous fait grâce. Nos sentiments sont importants, ils sont utiles. Mais ce n'est pas avec eux que nous allons apprendre à connaître Dieu de manière fiable. Ce n'est pas eux non plus qui nous permettent de connaître de manière exacte la relation que nous avons avec Dieu. Nous apprenons à marcher par la foi, non pas en nous appuyant sur nos sentiments à propos de Dieu, mais en nous appuyant sur les faits concernant Dieu. Et nous les trouvons dans la parole, comme nous l'avons lu ce matin, combien Dieu est fidèle, combien Dieu est bon. Ma sécurité vient de ce que Dieu est et non de mes sentiments. Nous n'avons pas construit nos propres défenses, Dieu est notre forteresse. La vie du croyant s'affermit quand il vit de ce qu'il sait de Dieu et non de ce qu'il ressent à propos de Dieu ou à propos de lui-même ou à propos des autres. Des montagnes, nous dit le psaume au verset 2, entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. À jamais. Quel encouragement. Les montagnes nous renvoient une image forte, une image concrète de solidité, de stabilité. C'est une réalité, c'est de la géologie, c'est pas de la psychologie. Les montagnes sont là, solides. Une muraille peut être renversée, mais pas une montagne. Vous êtes d'accord avec moi? De la même manière que les montagnes entourent Jérusalem, Dieu nous entoure de tous les côtés, solidement, dès le jour de notre salut jusqu'à la fin. Dès maintenant et à jamais. Voilà un premier remède contre le doute, contre l'insécurité qui provient du doute, de nos sentiments qui nous jouent des mauvais tours. Il y a une autre source d'incertitude que nous allons voir maintenant, qui se trouve dans la souffrance et dans la douleur. Des événements subis nous affligent parce qu'ils s'abattent soit sur nous, soit sur nos proches. Quand la maladie frappe un de nos proches, on se demande pourquoi Dieu permet cela. Quand la maladie nous touche aussi, on se demande, mais pourquoi Seigneur tu permets cela? Quand ça dure, on se demande, mais pourquoi? Quand la maladie d'Alzheimer, par exemple, frappe un membre de la famille, on se demande, est-ce que nous n'allons pas l'attraper plus tard? Parce qu'il y a c'est une maladie génétique et elle peut toucher des membres de la famille. Quand on voit un fidèle serviteur qui a marché longtemps avec le Seigneur être durement éprouvé, on ne reste pas insensible à ça. On est ébranlé, on est inquiet. On se demande si nous, dans sa situation, on pourrait tenir le coup, vu que notre foi n'est pas une foi solide. La maladie, la mort, la persécution, la douleur sont des sources d'inquiétude. C'est le lot de tous les hommes. Et nous sommes même, comme le dit Asaph dans le psaume 73, que les méchants sont épargnés et que les justes sont plutôt éprouvés. Mais la réalité de la souffrance n'a pas néanti la confiance du psalmiste. Pourquoi? La réponse, nous la trouvons au verset 3, et vous lisez avec moi, au verset 3 du psaume 125, « Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. » La souffrance, les épreuves, la douleur n'a pas anéanti la foi du psalmiste. Et il a connu ça. Aucun homme n'échappe à ça. On peut se rappeler du peuple d'Israël. Israël a connu l'oppression de bien des manières. Le sceptre de la méchanceté a pesé sur Israël à plusieurs reprises au cours de son histoire. Pharaon, les Philistins, les Assyriens, Sanchérib, les Chaldéens, Nébuchadnezzar, on a vu ça dans Daniel, les Perses, Cyrus, Artaxerxès, les Romains avec César. Le peuple d'Israël a connu le sceptre de la méchanceté. De l'extérieur, il semblait que le sceptre de la méchanceté dominait la vie des Israélites la plupart du temps. Mais de l'intérieur, le témoignage de la foi racontait une autre histoire. Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Si la méchanceté devait durer à jamais, même la personne la plus solide dans la foi ne tiendrait pas le coup. Dieu ne va pas permettre que la méchanceté dure toujours. Et on a vu que le juste est gardé, mais le méchant est châtié. Il y a un temps où la méchanceté s'arrête, où Dieu châtie. Alors, la méchanceté ne durera pas toujours parce que Dieu ne va pas permettre cela. Le danger, l'oppression, la précarité, les douleurs n'excèdent jamais ce que la foi peut surmonter. Ils n'ont pas vaincu Job. Et vous avez entendu, vous avez lu tout ce qui est arrivé à Job. Et Jacques nous dit, regardez la patience de Job, regardez la fin qu'il a eue. L'oppression non plus n'a pas usé Jérémie, ni les apôtres du Seigneur. Parce que les disciples non plus n'ont pas été vaincus par l'oppression. Le mal et l'injustice sont toujours temporaires. Le témoignage de l'apôtre Paul est éloquent. Il pouvait prendre avec moi 1 Corinthiens chapitre 13 à ce propos. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Gardez un droit dans le psaume 125. Corinthiens chapitre 10 verset 13, nous lisons là, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. On peut aussi tourner les pages et prendre 2 Corinthiens, chapitre 12. Et là, c'est l'expérience de l'apôtre Paul qui avait reçu des révélations extraordinaires. Et on va simplement lire à partir du verset 7, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et prenons cette dernière référence, Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, dans Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voilà. Job ne pensait pas s'en sortir comme ça. Ses amis, les trois amis, ne l'ont pas encouragé, mais l'ont découragé. Le peuple d'Israël ne pensait pas pouvoir sortir de l'esclavage d'Égypte, mais Dieu lui-même les a délivrés. Et nous ne pensions pas non plus être sauvés et être enfants de Dieu par nos efforts, tellement nous sommes pécheurs, et bien Dieu nous sauve, nous a sauvés par grâce. Et bien, le Seigneur ne permettra pas que le mal, que le sceptre de la méchanceté demeure sous les justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers le mal. Le Seigneur permet que le mal dure un temps, mais pas toujours. Il y a une troisième source d'insécurité que j'aimerais aborder aujourd'hui, qui est l'éventualité d'abandonner le Seigneur. 1 Jean chapitre 5, verset 12 à 13 nous dit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Quand on est chrétien pour la vie. On ne peut pas perdre son salut parce que cela nous vient de Dieu et pas de nos efforts, pas de notre religion, pas de notre bonne moralité. Toutefois, quand on lit les Écritures, on voit que certaines personnes ont bien commencé à suivre le Seigneur et après elles ont arrêté. L'exemple de Judas, n'est-ce pas, qui a trahi le Seigneur pour quelques pièces d'argent. Et Paul aussi a connu bien des gens qui l'ont abandonné, Hyménée, Alexandre, qui ont fait naufrage par rapport à la foi. La Bible parle aussi de beaucoup de personnes qui diront à la fin, Seigneur, Seigneur, et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Matthieu chapitre 7, verset 23. Donc ça peut être aussi une source d'inquiétude. Est-ce que je vais abandonner le Seigneur? Est-ce que je serai capable d'aller jusqu'au bout? Le Seigneur m'a sauvé, je l'ai reconnu comme mon Seigneur et Sauveur par la foi, je lui ai fait entièrement confiance, mais est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout? Et c'est vrai que la vie chrétienne, ce n'est pas une balade, c'est une marche, c'est une course, c'est un marathon, c'est un combat. Et nous savons aussi que nous sommes faibles en nous-mêmes. Nous voyons bien que nous défaillons à certains moments, que notre foi est en dents de scie. Et heureusement qu'il y a la parole et l'Esprit de Dieu pour nous tenir. Et même si nous sommes conscients que nous sommes faibles en nous-mêmes, Dieu nous accorde sa grâce parce qu'il veut que nous progressions. La sanctification, ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, c'est le plan de Dieu. Dieu, dans tout ce qu'il permet dans notre vie, nos hauts et nos bas, veut nous sanctifier. Et il arrive aux croyants d'être zélés un jour et de douter un autre jour. Il arrive aux croyants de ne pas réussir à honorer toutes ses promesses, mais le Seigneur est fidèle. Si nous sommes infidèles, lui est fidèle. Il honore toujours ses promesses. Quel remède nous propose le psaume 125 contre le risque de se refroidir, d'abandonner le Seigneur? Eh bien là encore, c'est le verset 1 du psaume 125 qui nous donne le remède. Et nous lisons au verset 1, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. » Remarquez bien cette phrase, « Ceux qui se confient en l'Éternel. » Ce n'est pas ceux qui ont confiance en leur capacité. Ce n'est pas ceux qui ont confiance en leur moralité. Ce n'est pas ceux qui ont confiance en leur, même leur don spirituel. Ce n'est pas ceux qui ont confiance dans leur santé, dans une personne quelconque, dans leur nation, dans leur argent. Ceux qui se confient en l'Éternel. Il s'agit de ceux qui prennent en compte que Dieu est pour nous et non contre nous. Philippiens nous dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, Philippiens chapitre 1 verset 6, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ce n'est pas de nous que vient la capacité d'aller jusqu'au bout, mais du Seigneur qui s'est engagé avec nous. Il a fait une alliance avec nous, et il ne va jamais rompre le contrat que lui-même a contracté avec nous. Si nous sommes faillibles, Dieu lui est fidèle. Il n'oublie pas ses promesses. Il est le berger fidèle. Il s'est engagé avec nous au travers d'une alliance. Ce n'est pas quelques mots en l'air, c'est une alliance qui établit les conditions et garantit les résultats. Romains chapitre 8, verset 31 nous dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Il nous dit aussi, Romains chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et Philippiens chapitre 1, verset 6, que j'ai dit, nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui menons l'œuvre à son terme, mais c'est le Seigneur. Et nous avons toujours besoin de nous confier en lui. » Et c'est à lui que nous devons nous approcher, c'est en lui que nous nous sommes confiés au début, et bien nous pouvons lui faire confiance jusqu'à la fin. Le psaume 125 nous parle donc en long et en large de la sécurité du croyant. Ni nos doutes, ni la souffrance, ni l'éventualité même d'abandonner le Seigneur n'indiquent que Dieu nous aurait abandonnés. Dieu est fidèle, ce qu'il veut c'est notre sanctification, ce n'est pas notre confort. Ce n'est pas que nous gagnions beaucoup d'argent, ce n'est pas que nous ayons beaucoup de biens, c'est que nous ressemblions à Jésus-Christ. Et de plus en plus, et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait? La confiance entière dans son Père, prêt à donner sa vie pour nous sur la croix. Notre trésor est déjà au ciel. Nous avons besoin simplement d'être transformés à la ressemblance de Christ. Il veut notre sanctification, il est celui qui répète sans cesse, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ma grâce te suffit. » car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Jésus sait très bien que nous imaginons le pire. Jésus sait que nous faiblissons. Il sait que nous doutons des fois. C'est pourquoi il répète trois fois dans le sermon sur la montagne, « Ne vous inquiétez pas. » Matthieu chapitre 6, verset 25, verset 31, verset 34. « Ne vous inquiétez pas. » Et remarquez comment le psaume commence, le psaume 125. « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. »
elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Et la fin du psaume nous dit que la paix soit sur Israël. Notre Dieu est un Dieu de paix, il nous donne sa paix. Je vous ai dit ces choses, Jean chapitre 16, verset 33, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Que la parole du Seigneur, nous puissions la méditer et prendre courage dans toutes nos situations. Eh bien, j'aimerais que nous terminions ce moment de méditation par ce cantique, non jamais tout seul, c'est le 159, sur la gloire.